en compagnie, parlez-nous d'un livre qui vous tient à cœur.
Je suis Marc Lambron de l'Académie française et j'ai envie de vous parler de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. C'est un livre peut-être plus que d'autres qui est relié au moment où on l'a lu pour la première fois, en général à la fin de l'enfance ou pendant l'adolescence. Je l'ai lu quand j'avais 13 ans, donc en 1970, c'est-à-dire exactement un siècle après la parution de l'ouvrage en 1870. Ce qui fait d'ailleurs que les jeunes gens de l'époque de Jules Verne pouvaient le lire comme un récit d'anticipation, et je le lisais un siècle plus tard comme un récit presque rétrospectif. C'est le propre du moment où un livre est lu, et l'angle de lecture varie avec l'époque et aussi avec l'âge où on le découvre. Alors il y avait quand même une petite rétrospection dans 20 000 lieues sous les mers, c'est que le sous-marin, le rêve du sous-marin existait depuis longtemps. On en trouve dans les dessins de Léonard de Vinci, au XVIIIe siècle aussi, divers projets de sous-marins, de bathyscaphes, de scaphandres. Et la rétrospection, elle était aussi dans le réel, puisque lors de la guerre de Sécession, qui s'achève à peu près 5 ans avant la parution du roman de Jules Verne, des premiers sous-marins très rudimentaires avaient été construits par les deux parties. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les romans d'anticipation, il y a des anticipations réalisées, puis d'autres qui sont déçues. Et les fictions, les utopies de cette époque où l'on voyait par exemple des véhicules volants individuels dans le ciel de Paris, Dieu sait que ça ne s'est pas réalisé. En revanche, le sous-marin était en effet voué à une sorte de validation dans le réel. Dès 14-18, des combats ont été engagés avec des bathyscaphes, plus encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Et depuis lors, on voit bien que les sous-marins nucléaires, porteurs de têtes nucléaires, sont entrés dans notre réalité. Donc, Jules Verne, visionnaire et visionnaire d'une prophétie réalisée. C'est un écrivain, on le sait, chez qui souvent le véhicule lui-même est un personnage. Si on pense à la jangada, par exemple, qui est un gigantesque radeau aménagé qui descend l'Amazonie, si on pense à l'aéronef de Robur le Conquérant, si on pense à la machine à vapeur du roman homonyme, qui est une sorte de locomotive, mais qui progresserait sur une route, et en l'occurrence en Inde. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de véhicule sans biotope. Et évidemment, chez Jules Verne, c'est le fond des mers. C'est les abysses, c'est la faune sous-marine et c'est l'idée de plonger. Alors là aussi, alors même qu'à l'époque de Jules Verne, nous avons des pêcheurs de perles, mais tout ça reste très, très rudimentaire. On va voir dans sa filiation, dès les années 20-1930, un pionnier par exemple de la photographie et du film sous-marin comme Jean Painlevé en France. Évidemment, dans les années 50 du XXe siècle, le commandant Cousteau. Et puis ensuite, toutes sortes de fictions jusqu'au Grand Bleu de Luc Besson et autres films qui exploitent la veine de la vie sous-marine ou du véhicule sous-marin. Alors, ce qui est intéressant littérairement, c'est qu'à l'époque où Jules Verne écrit son roman, pour une bonne partie, il n'a qu'une connaissance livresque des fonds sous-marins et singulièrement de la faune qu'il met en scène. Et dans son livre sur Jules Verne, Jouvence sur Jules Verne, Michel Serres avait bien montré qu'en fait, et notamment dans ces ivresses énumératives qui caractérisent souvent la prose de Jules Verne, qui est aussi une prose didactique, puisqu'il écrivait pour la jeunesse, avec des illustrations que l'on trouve dans l'ancienne édition Hetzel, eh bien, dans ce roman, on ne se promène pas dans des abysses, on se promène dans des livres, c'est-à-dire dans des nomenclatures d'ictiologues, de spécialistes des poissons. Et finalement, le livre rencontre le livre. Le sous-marin de Jules Verne descend dans une bibliothèque, en quelque sorte, plutôt que dans des au fond. La part de fiction, c'est que l'auteur n'est pas allé 20 milieux sous les mers, mais que une science lui permet de faire comme si. La science vient au secours de la fiction. C'est de la science-fiction. Alors, il n'y a pas seulement un engin, un sous-marin. Il y a évidemment le personnage qui l'habite et qui est le capitaine Nemo. La figure du capitaine personne. Alors, on peut dire que la mer, l'élément marin, la vaste mer, a souvent été, évidemment, associé à des mythologies de la liberté, homme libre, toujours tu chères à la mer, ou de la rébellion, puisque la piraterie, la flibuste, sont là dès l'Antiquité, qui a toujours quelque chose de dissident, de volontiers, en tout cas un appel de liberté qui est lié aux fictions ou aux récits de la mer. À peu près à la même époque, Victor Hugo écrit, depuis Guernesey, où il est exilé, les travailleurs de la mer, et là aussi, il y a une posture de liberté qui est prise face à l'océan. Il y a aussi, d'ailleurs, à travers le personnage de Gilliatt, une lutte avec une pieuvre abominable, comme on trouve dans le roman de Jules Verne, un combat contre un kraken, contre une pieuvre géante. Comment ne pas penser aussi à Rimbaud. Rimbaud a 16 ans, l'année où est publié 20 milieux sous les mers. C'est exactement le moment où il écrit Le bateau ivre, qui est aussi une pétition d'échapper vers l'infini marin et sidéral. Et puis, plus tard, on verra toutes ces mythologies des navigateurs solitaires, d'Alain Gerbaud à Tabarly, qui sont aussi des parangons, précisément, de l'émancipation et de la lutte d'un homme détaché du réel ordinaire pour aller s'affronter aux éléments. Alors, ce romantisme de la mer ou de la flibuste, chez Jules Verne, c'est presque un romantisme de la flibuste technologique. C'est-à-dire qu'on va apprendre que le capitaine Nemo, on le saura mieux dans L'île mystérieuse, qui est une sorte de suite, capitaine Nemo, c'est un prince indien, en fait, qui se venge de divers affronts, de diverses offenses passées. Alors, si on faisait une lecture castriste de Jules Verne, on pourrait dire que c'est déjà le capitaine Nemo serait la pointe armée, la pointe avancée de ce qu'on n'appelle pas encore le tiers-monde à l'époque. Et en même temps, on voit bien comment l'invention, l'hypertechnologie, le sous-marin, le Nautilus, est au service d'une cause, d'une vengeance, qui est une vengeance pas loin d'être idéologique ou politique. Et l'instrumentalisation belliqueuse de l'outil technique dans la guerre, par la technique, c'est aussi l'horizon du XXe siècle qui arrive, et évidemment d'un philosophe qui va essayer de penser la technique dans tous ces aspects-là, qui est Heidegger. Donc peut-être que les mérous peuvent conduire à la forêt noire et Jules Verne à Heidegger. Alors, ce qui est intéressant dans la postérité, finalement, des romans, et notamment des grands romans du XIXe siècle, c'est qu'on ne compte pas, pour les plus grands d'entre eux, le nombre d'adaptations cinématographiques qui en ont été faites. Et en somme, 20 milieux sous les mers paraît en 1870. 25 ans plus tard, à peu près, entre Edison et les Frères Lumière, on date de 1895, la naissance du cinéma. Donc c'est intéressant de voir qu'un roman d'anticipation va être pris en charge par un nouvel art Lui-même un peu anticipé, parce que dans un des romans de Jules Verne, qui est Le Château des Carpates, on trouve une sorte de technique de miroir, de reflet d'image, qui pourrait annoncer quelque chose comme le cinémascope, voire les onogrammes. Mais en tout cas, stricto sensu, quand il écrivait son roman, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il ferait un jour l'objet d'adaptation. Il y en a eu plusieurs au cinéma, alors que, mettons, quand Graham Greene ou Philip Roth écrivaient des romans au XXe siècle, ils pouvaient aussi penser, ils pouvaient en tout cas incorporer l'idée que le cinéma viendrait prendre le relais. Ce n'est pas encore le cas de Jules Verne. Alors, le film qui fait foi, même s'il y a une adaptation soviétique, par exemple, c'est le film produit par Walt Disney, qui est le film de Richard Fleischer en 1954, avec James Mason dans le rôle du capitaine Nemo, avec Peter Lorre qui joue le serviteur conseil, avec Kirk Douglas qui joue le baleinier Ned Land. Et ça a été mon cas d'ailleurs, pour bon nombre d'enfants de ma génération, nous avons pu voir le film de Fleischer avant de lire Jules Verne. Moi j'ai d'abord vu le film et ensuite le retour à l'envoyeur, le film m'a conduit quelques années plus tard, parce qu'il y avait une collection, enfin dans la collection, si je ne me trompe, Livres de poche, il y a eu une réédition des romans de Jules Verne avec les illustrations original de l'édition Hetzel, ce qui était d'ailleurs très parlant et ce qui prouve d'ailleurs que le roman pour la jeunesse se nourrissait aussi d'images qui étaient proposées aux jeunes lecteurs. Le film de Fleischer a marqué sans doute une date. D'abord, c'est la première fois que les studios Disney tournaient en cinémascope. Des moyens considérables ont été mis au service du film. On a notamment, dans une piscine géante sur les plateaux de la Fox, inauguré de nouvelles focales, de nouveaux objectifs pour des prises sous-marines. C'est tout à fait encore Rimbaud qui, quelque part, je crois que c'est dans les Illuminations où il parle d'un salon au fond d'un fond d'un lac. Le Nautilus, c'est assez ça, parce que le sous-marin, l'habitacle, le bureau enfin, du capitaine Nemo ressemble assez à ces intérieurs que Gabriele D'Annunzio avait composés dans sa villa, dans sa folle villa, le Vittoriale sur le lac de Garde. Il y a un côté d'Annunzien avant l'heure dans l'habitacle, dans le sous-marin de Nautilus, et notamment cet orgue d'ailleurs, puisqu'il joue de l'orgue au fond des mers. Et pour Fleischer, ils avaient simplement pris un vieil orgue de cinéma qui s'avait installé dans le décor. Et même, il y a dans ce film de l'anticipation accompagnée. Alors il y a une chose très intéressante qui est déjà un peu chez Jules Verne, c'est une sorte d'écologie. C'est-à-dire qu'on voit que les hommes du capitaine Nemo ont en quelque sorte des champs, des cultures sous-marines dans lesquelles ils viennent prélever ce qui va faire leur nourriture. Donc le capitaine Nemo est un redoutable vengeur, mais il est déjà éco-bio. Il affronte le poulpe géant. Et à la fin du film de Fleischer, donc produit par Disney, l'île du capitaine Nemo disparaît dans une explosion nucléaire. Il y a un champignon atomique, donc les années 50 finalement ajoutent leur hantise pour le futur, qui est le chaos nucléaire, à l'anticipation de Jules Verne. Autrement dit, nous sommes là 80 ans à peu près après la parution du roman, et ça permet de créditer Jules Verne d'une capacité visionnaire qui n'était pas la sienne. Mais après tout, pourquoi pas, le cinéma a un pouvoir d'embellissement ou de prolongement, et c'est une façon aussi de relier l'époque, le temps d'une écriture au temps d'une adaptation. Dernière chose peut-être, peut-être plus personnelle d'ailleurs, j'ai dit que j'avais lu ce roman à peu près à l'âge de 13 ans, et ce que me faisait éprouver les romans, et notamment les romans de Jules Verne, c'était ce qu'on pourrait appeler le pouvoir multiplicateur de la littérature. C'est-à-dire, vous êtes dans un monde et un roman ouvre des mondes dans le monde. ajoute du possible au réel. Moi, très concrètement, j'habitais à Lyon, à côté d'un très grand parc qui s'appelle le Parc de la Tête d'Or, avec un zoo, avec des serres géantes, avec un lac. Et quand j'allais dans les serres tropicales, qui ressemblent un peu aux serres de Kew Gardens à côté de Londres, si j'avais lu l'Agent Gada de Jules Verne qui se place en milieu amazonien, évidemment, je pouvais projeter de la fiction sur du réel, en fait. C'est-à-dire des choses lues sur un espace concret avec toutes sortes de plantes tropicales. Le réel était accru, en quelque sorte, par l'imaginaire d'une lecture. De la même façon, dans ce lac, il y avait un lac. Et d'ailleurs, Parc de la Tête d'Or, c'est parce qu'une légende dit que la tête en or, la tête d'un Christ en or, était immergée. Donc je n'avais pas le Nautilus, mais il y avait quand même là une idée de profondeur lacustre et d'une hypothétique plongée. Donc, au fond, la littérature, c'est ce qui installe des mondes à côté du monde, mais aussi qui peut accroître le mystère et la poésie de celui où nous vivons. Et c'est pour ça que, pour clore, je retrouve que Jules Verne me ramène à Rimbaud, c'est-à-dire un salon au fond d'un lac. Et finalement, le plus grand anticipateur français avait pour contemporain un adolescent qui était sans doute un des plus grands poètes visionnaires de notre littérature. Voilà, il est temps de dire bonne nuit au capitaine Nemo et à Jules Verne.